Donc, je vous invite à lire la parole de Dieu. C'est dans la première épître de Jean, au chapitre 4. La première épître de Jean, au chapitre 4. Nous allons lire ensemble à partir du verset 13. À ceci, nous savons que nous demeurons en Dieu comme Dieu en nous. C'est qu'il nous a donné de son esprit. Et nous avons vu, nous témoignons, que le Père a envoyé le Fils comme sauveur du monde. Celui qui reconnaît que Jésus est le Fils de Dieu, Dieu demeure en lui comme lui en Dieu. Et nous, nous connaissons l'amour que Dieu a pour nous et nous l'avons cru. Dieu est amour. Celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu et Dieu demeure en lui. C'est en cela que l'amour est accompli parmi nous pour que nous ayons de l'assurance au jour de jugement. Tel il est, lui, tel nous sommes, nous aussi, dans ce monde. Il n'y a pas de crainte dans l'amour, mais l'amour accompli bannit la crainte, car la crainte suppose un jugement, et celui qui craint n'est pas accompli dans l'amour. Quant à nous, nous aimons parce que lui nous a aimés le premier. Si quelqu'un dit « j'aime Dieu » et qu'il déteste son frère, c'est un menteur. Car celui qui n'aime pas son frère qu'il voit ne peut pas aimer Dieu qu'il ne voit pas. Et nous avons de lui ce commandement, que celui qui aime Dieu aime aussi son frère. Jusqu'ici, la parole de Dieu pour nous ce matin. Dieu demeure en nous. C'est une déclaration par laquelle l'apôtre Jean termine juste le passage qui précède notre lecture. Et dans notre texte, elle est revenue à trois reprises avec une forme différente et en impliquant la réciprocité entre Dieu et nous. Nous demeurons en Dieu comme lui demeure en nous, c'est le verset 13. Dieu demeure en lui, c'est-à-dire en la personne qui reconnaît que Jésus-Christ est le Fils de Dieu, comme lui aussi demeure, comme cette personne aussi demeure en Dieu, c'est le verset 15. Et enfin, celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu et Dieu demeure en lui, le verset 16. Dieu demeure en nous. Voilà une affirmation très forte, dite d'une manière très claire et sans aucune ambiguïté. Dire que Dieu demeure en nous peut être considéré franchement très prétentieux. Qui sommes-nous pour prétendre que Dieu, le Créateur de tout l'univers, demeure en nous? Vous savez, les autres religions, les autres doctrines enseignent en effet qu'elles peuvent permettre à leurs adeptes, à leurs fidèles, de s'approcher de la divinité. Elles prétendent même pouvoir donner, avec quelques pratiques religieuses, permettre à leurs adeptes d'apaiser la colère de la divinité. Mais elles ne vont jamais jusqu'à assurer la présence de la divinité dans la vie de leurs fidèles. Qu'est-ce qui nous permet, nous, chrétiens, de dire que Dieu demeure en nous et que nous demeurons en lui? Quelles sont les preuves tangibles? Quelles sont les manifestations concrètes qui nous montrent que Dieu demeure réellement en nous? Qu'est-ce qui nous assure de la présence de Dieu dans notre vie? Sur la base du texte que nous venons de lire de Jean, je vous propose 5 manifestations ou preuves concrète qui montre la présence, manifeste la présence de Dieu dans notre vie, dans la vie de ses enfants, dans la vie des chrétiens. La première preuve de la présence de Dieu dans notre vie, c'est son Esprit Saint qui est en nous, dans notre vie. C'est le don de son Esprit. À ceci, nous savons que nous demeurons en Dieu comme lui demeure en nous, c'est qu'il nous a donné de son Esprit, verset 13. Dieu nous a donné de son Esprit Saint. Dieu nous a donné l'Esprit Saint, son Esprit, pour habiter en nous et faire de nous de sa demeure. Et c'est pourquoi l'apôtre Paul dit que nous sommes le temple même du Saint-Esprit et qui nous habite, qui nous a été donné par Dieu et qui maintenant demeure en nous, dans l'Épître aux Corinthiens, chapitre 6. Au début du chapitre 4, Jean évoque les conditions pour connaître justement, pour connaître et demeurer en Dieu. Il dit, il faut confesser que Jésus-Christ est le Fils de Dieu, dans ses premiers versets, Et ensuite, il dit qu'il faut aimer les autres comme Dieu nous a aimés dans les versets 7 à 12. Et ces deux conditions permettant de connaître Dieu ne peuvent être satisfaites que grâce à l'Esprit de Dieu, justement. Seul l'Esprit de Dieu peut nous permettre de satisfaire ces deux conditions. C'est par l'Esprit que nous arrivons à confesser la divinité de notre Seigneur Jésus-Christ. Et c'est par l'Esprit aussi que nous devenons capables d'aimer les autres. L'être humain, sans l'aide de l'Esprit de Dieu, demeure dans son aveuglement, demeure dans son incapacité à connaître réellement Dieu, et encore moins à demeurer en Dieu par lui-même. La multiplicité des rites religieux et ou encore la diversité des sacrifices de tout genre ne permettent pas de connaître Dieu et de demeurer en lui. Seul son Esprit Saint, seul l'Esprit que Dieu nous a donné, que Dieu a mis en nous, permet de connaître profondément, spirituellement, que Jésus-Christ est réellement le Messie, le Fils de Dieu vivant, pour reprendre la déclaration de l'apôtre Pierre, la confession de l'apôtre Pierre. L'apôtre Paul dira plus tard aussi que personne ne peut affirmer que Jésus est Seigneur si ce n'est par le Saint-Esprit, 1 Corinthiens 12. Dieu envoie le Saint-Esprit pour rendre témoignage à Jésus-Christ et nous permettre à nous d'être êtres humains, de comprendre, de croire que Jésus-Christ est Seigneur à la droite de Dieu le Père. Dans son dernier discours, Jésus promet en effet à ses disciples d'envoyer l'Esprit Saint de la part de son Père pour rendre témoignage et pour le glorifier dans la vie de des croyants, dans la vie de ceux qui croient en lui. Oui, c'est aujourd'hui donc nous pouvons connaître Dieu en Jésus-Christ. C'est aujourd'hui nous pouvons connaître Dieu et Jésus-Christ qu'il nous a envoyés. C'est uniquement grâce à son Esprit Saint. Nous ne devons surtout nous devons faire attention à ne pas prétendre que nous sommes parvenus à la connaissance de Jésus-Christ grâce à nos recherches, à notre recherche spirituelle ou à notre compréhension du mystère de l'être de Dieu. Certes, notre recherche spirituelle, nos démarches pour connaître la foi chrétienne, pour s'approcher de Dieu, ont joué un rôle important, mais nous devons savoir qu'au final, c'est vraiment l'Esprit de Dieu qui ouvre l'intelligence de notre cœur et qui nous permet de reconnaître en Jésus-Christ le Seigneur et le confesser comme notre Sauveur. C'est la première preuve tangible de la présence, de la demeure de Dieu en nous. Son Esprit est en nous. La deuxième preuve de la présence de Dieu, c'est le fait que nous connaissons, nous reconnaissons et nous confessons que Jésus-Christ est Fils de Dieu. Celui qui connaît que Jésus-Christ est le Fils de Dieu, Dieu demeure en lui, comme lui en Dieu, verset 15. C'est la présence de Saint-Esprit dans notre vie, nous renvoie à cette expérience subjective, personnelle, que nous faisons chacun à sa manière avec Dieu. La confession de Jésus renvoie ici, renvoie l'expérience objective que de Jésus-Christ qui s'est déroulée dans l'histoire de l'humanité, la venue du Christ dans notre monde, la venue du Fils de Dieu dans notre monde. Oui, Jésus-Christ est venu dans notre monde pour sauver tous ceux qui croient en lui, pour sauver ceux qui acceptent de marcher, de recevoir sa lumière et de marcher à la lumière de son amour. Jésus ne s'est pas contenté de venir sur notre terre et apporter un enseignement exceptionnel qui se distingue d'ailleurs, qui se distingue parmi tant d'autres enseignements donnés de son époque, mais il a donné sa vie à la croix pour payer le prix de notre désobéissance, le prix de notre péché, comme nous l'avons chanté en long et en large ce matin. Le salaire du péché, c'est la mort, et comme le sort des humains est réservé, le sort des hommes et de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement, eh bien le Christ fut offert une seule fois pour enlever les péchés d'une multitude, écrit l'auteur de l'Épître aux Hébreux. Christ, le juste, est mort pour nous, pour nous offrir le salut, et pour offrir le salut à tous ceux qui croient, tous ceux qui veulent faire partie de cette multitude, au bénéfice de ce don de Dieu, le don de Jésus-Christ. Jean, les apôtres, Les premiers chrétiens ont rendu témoignage de ce don de Jésus-Christ pour le salut de quiconque croit. Jean écrit au verset 14, « Nous avons vu, nous rendons témoignage que le Père a envoyé le Fils, son Fils, comme sauveur du monde. » Ils témoignent, c'est des témoins oculaires. Grâce à leur témoignage qui a été laissé dans le Nouveau Testament, les chrétiens de tous les temps continuent à proclamer, continuent à rendre témoignage de Jésus-Christ, de son salut qui est donné grâce à l'œuvre de la croix. Aujourd'hui est aussi un jour de salut pour quiconque qui croit, pour quiconque accepte Jésus comme son Seigneur et Sauveur. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur, dit l'auteur de l'Épître aux Hébreux. Oui, Dieu ne fait le don de son Fils, et c'est à nous, à chacun, maintenant, de le recevoir, de l'accueillir favorablement et de l'accueillir avec reconnaissance. Car il n'y a sous le ciel aucun autre nom donné aux hommes par lequel ils peuvent être sauvés. Dans son évangile, Jean fait un commentaire qui est devenu l'un des passages les plus connus de la Bible du Nouveau Testament concernant le Seigneur Jésus. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils pour que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Le Fils qui est venu pour sauver le monde et non pas pour le juger. Celui qui croit, poursuit au verset 18 du chapitre 3, celui qui croit en lui n'est pas jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Le don du Fils de Dieu est donc pour les hommes, pour que les hommes soient sauvés. Dieu a fait sa part de responsabilité. Dieu a été jusqu'au bout. Il a fait une grande part, à vrai dire, la part fondamentale. Maintenant, c'est à nous, c'est à chacun de recevoir ce don de Dieu. C'est à chacun d'accepter ce don pour le salut de son âme, pour le salut de sa vie. Refuser ce don, ne pas croire dans le Fils unique, c'est simplement le jugement assuré. Non pas parce que Dieu ne le veut pas, mais parce que nous avons rejeté le moyen, l'unique que Dieu a prévu, a pourvu pour que nous soyons sauvés. Donc la faute reviendrait à nous et non certainement pas à lui. Reconnaître que Jésus est le Fils de Dieu, c'est ouvrir son cœur à ce Dieu d'amour. C'est laisser Dieu demeurer en nous. Et si Dieu demeure en nous, c'est grâce à Jésus qui nous a obtenu le pardon de nos péchés. Tous ceux qui croient en Christ peuvent être certains de cette présence de Dieu, de la demeure de Dieu en nous, et cela indépendamment des circonstances de la vie. La confession du Fils de Dieu est la deuxième donc preuve tangible de la présence et de la demeure de notre Dieu dans notre vie à chacun, à tous ceux qui l'ont accepté et accueilli. La troisième preuve qui est donnée dans notre texte, c'est la connaissance de l'amour de Dieu. Nous connaissons, c'est le fait que nous connaissons l'amour de Dieu. Grâce à la présence de Dieu en nous, nous avons accès à son amour, car Dieu est amour. Une déclaration qui revient pour la deuxième fois dans ce chapitre. Dieu est amour dans son être le plus profond. Dieu est amour dans tout ce qu'il dit, dans tout ce qu'il fait. Il est amour. Et connaître ce Dieu, c'est connaître aussi cet amour. Dieu est la source, l'origine de l'amour, comme Jean a pris le temps de l'expliquer dans les versets 7 à 12 de ce chapitre 4. Dans l'amour de Dieu envers nous, s'est manifesté tout au long de l'histoire. Cet amour s'est montré et Dieu nous aime tellement qu'il nous a créés en son image. Et malgré notre désobéissance ou la désobéissance de nos premiers représentants, Dieu a promis tout de suite d'envoyer un sauveur, la descendance de la femme qui permettra à l'homme d'être sauvé. En Jésus-Christ, Dieu nous a manifesté son amour d'une manière pleine, d'une manière entière. Il a donné son Fils unique pour nous sauver, pour nous délivrer de péché. Il n'y a pas de plus grande manifestation de l'amour de Dieu que le don de son propre Fils. C'est le don ineffable, nous dit l'apôtre Paul dans l'Épître aux Corinthiens. Il n'y a pas de plus grand amour, dit Jésus, que de donner sa vie pour ses amis. Vous êtes mes amis, nous dit le Seigneur Jésus. Et il l'a fait. Il a donné sa vie pour nous. Connaître Dieu, c'est donc connaître la largeur, la longueur, la profondeur, la hauteur de l'amour de Christ, un amour qui surpasse en effet toute connaissance. Connaître Dieu, c'est connaître cet amour que Dieu continue à répandre aussi dans notre cœur par son Esprit Saint. Oui, aujourd'hui encore, il accomplit son amour en nous. Il le rend parfait, comme le précise Jean dans les versets 11 et 12 de notre chapitre. La manifestation de l'amour de Dieu dans notre vie est la marque tangible, la marque concrète que de la présence de Dieu en nous. Certes, nous avons toujours des progrès à faire. Certes, nous avons toujours des progrès à faire encore et encore dans ce domaine. Mais nous ne pouvons pas nier la réalité, le fondement de l'amour qui doit habiter le cœur de tous ceux qui se réclament de ce Dieu d'amour. Parce que Dieu demeure en nous, parce que son amour se manifeste en nous, parmi nous, nous ne pouvons que l'aimer. Nous ne pouvons que aimer. Dieu d'amour, son amour, est une autre preuve concrète de sa présence au milieu de nous. Quatrième manifestation qui montre aussi la présence de l'amour parmi nous, la présence de Dieu en nous et parmi nous, c'est l'assurance de notre salut. L'assurance que nous avons face au jugement dernier, au jugement à venir, au verset 17. Ce jour-là, tel il est, lui, le Christ, tel nous sommes aussi dans ce monde. Il est le Fils bien-aimé, nous sommes appelés enfants de Dieu, et nous le sommes, écrit Jean au chapitre 3, au premier verset. Jésus-Christ qui appelle Dieu mon Père, nous avons reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions Abba Père. Chapitre 3, Jean décrit que nous savons que lorsque Christ sera manifesté, nous serons semblables à lui parce que nous le verrons tel qu'il est. Devenir semblable à lui est l'objectif, le projet de Dieu pour chacun d'entre nous. Un objectif qu'il a déjà commencé à réaliser par son esprit dans notre cœur en respectant notre rythme. Le Seigneur a déjà commencé à réaliser ce projet, à nous rendre semblables à l'image de son Fils. Dès à présent, nous avons l'assurance de nous approcher de notre Dieu en toute confiance et en toute assurance, comme nous l'avons fait ce matin. Et cette assurance nous accompagnera tout au long de notre vie, jusqu'au bout, jusqu'au retour de notre Seigneur, jusqu'à ce jour de jugement qui attend tous les êtres humains. Un jour, ce jour de jugement, un jour qui sera terrible, un jour qui sera redoutable. Terrible et redoutable pour tous ceux qui auront refusé le don de Dieu, le seul moyen que Dieu a prévu pour que nous soyons sauvés. Un jour de délivrance, un jour de salut pour ceux qui auront mis leur foi en Jésus-Christ. Car seuls en Christ, nous pouvons être sauvés. Nous pouvons être sauvés et vivre ce salut jusqu'au bout. La présence de Christ dans notre vie nous donne une victoire totale sur cette crainte du châtiment, sur cette crainte du jugement qui attend tous les êtres humains, qui attend ceux qui rejettent le salut de Dieu. L'amour de Dieu nous fait comprendre, en effet, qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Et par conséquent, la crainte du châtiment à venir n'a pas lieu d'être dans le cœur des chrétiens qui se savent aimés, qui se savent pardonnés par Dieu. L'assurance de notre salut est une preuve tangible, concrète, de la présence, de la demeure de notre Dieu, en effet, dans notre vie. Cette assurance n'est pas fondée sur nos exploits en matière religieuse, de piété personnelle ou d'ailleurs communautaire, mais elle est fondée, cette assurance est fondée sur le fruit de la présence de Dieu en nous, sur ce que Dieu fait en nous et ce qu'il a fait dans l'histoire, mais aussi ce qu'il fait en nous. Aucune religion ne prétend assurer le salut à ses adeptes. Aucune doctrine ne prétend assurer le salut à ses adeptes. Et lorsqu'il arrive qu'une religion laisse entendre qu'il pourrait y avoir à ses fidèles un éventuel salut à venir, elle place ses fidèles devant des exigences, devant des performances extrêmes, voire impossibles à réaliser, mais sans toujours aucune assurance. Pour les autres religions, il faut gagner son propre salut par la force de la pratique religieuse, quitte à semer de la terreur. Mais pour l'Évangile, c'est Dieu qui offre le salut en Jésus-Christ. Impossible pour l'être humain de gagner la faveur de Dieu par ses propres succès, aussi extraordinaires soient-ils. Impossible de plaire à Dieu. Impossible de mériter quoi que ce soit de la part de Dieu, sinon sa colère, sa juste colère. Lorsque la bonté de Dieu, notre Sauveur, lorsque la bonté de Dieu, notre Sauveur et son amour pour les hommes ont été manifestés, il nous a sauvés, écrit l'apôtre Paul. Non pas parce que nous aurions fait des œuvres de justice, mais en vertu de sa propre miséricorde. C'est par pure grâce que nous sommes sauvés, que nous avons l'assurance que rien ne pourra nous arracher à l'amour de notre Dieu, que Dieu nous a témoigné en Jésus-Christ, notre Seigneur. Cette assurance est ferme parce qu'elle est fondée sur Dieu lui-même. Voilà pourquoi nous avons l'assurance. Au jour du jugement, du châtiment, nous n'avons pas à craindre ce châtiment à venir. Cette assurance atteste que Dieu est réellement, que le Dieu de notre salut est réellement avec nous. Il est en nous. Enfin, la dernière manifestation que je veux souligner ici de la présence de Dieu dans notre vie, c'est que nous aimons les frères et sœurs dans la foi. Cet amour fraternel découle tout naturellement de l'amour de Dieu qui habite en nous. Nous ne pouvons pas limiter ni empêcher cet amour de Dieu en nous de se manifester au travers de nous à l'égard des autres. S'il n'y a pas d'amour de Dieu dans notre vie, nous ne devons tout simplement déduire clairement et logiquement que Dieu n'est pas en nous. Nous ne pouvons pas affirmer que Dieu d'amour habite en nous et que nous ne pouvons pas affirmer que Dieu d'amour habite en nous et que nous n'aimons pas le frère ou la sœur qui est devant nous, qui n'est autre à vrai dire que le représentant de ce Dieu d'amour dont nous parlons. C'est une contradiction, cela revient simplement à affirmer une chose et sans contraire. Si quelqu'un dit « j'aime Dieu » et qu'il déteste son frère, c'est un menteur. Car celui qui n'aime pas son frère qu'il voit ne peut pas aimer Dieu qu'il ne voit pas. Et nous avons de lui ce commandement que celui qui aime Dieu aime aussi son frère. Calvin, dans son commentaire sur ces versets, écrit « c'est une fausse vantardise lorsque quelqu'un dit qu'il aime Dieu mais néglige son image qu'il a devant ses yeux. » L'amour est la marque des disciples de Jésus. C'est grâce à notre amour fraternel, à notre amour mutuel, que nous pouvons être connus et reconnus comme disciples de Jésus. L'amour envers les frères et sœurs est le premier fruit que l'Esprit de Dieu produit dans notre vie de chrétien. Voilà pourquoi nous ne pouvons pas, nous ne pouvons que aimer notre frère et notre sœur dans la foi. Voilà pourquoi nous ne pouvons qu'aimer notre prochain. Tous ces prochains que le Seigneur place sur notre chemin, eux aussi, le prochain, lui aussi, est créé en image de Dieu. L'amour de Dieu qui bannit la crainte du jugement, bannit aussi la haine dans les cœurs. Certes, nous ne pouvons pas prétendre laisser l'amour de Dieu manifester pleinement dans notre vie. Il y a toujours des progrès à faire, comme je l'ai mentionné. Mais le fondement est là. Le fondement est là, il est posé. Et nous sommes appelés à aller de plus en plus loin, de progrès en progrès, dans notre manière d'aimer d'ailleurs aussi bien Dieu que les frères et sœurs et que notre prochain, notre société. Et c'est dans ce sens-là d'ailleurs que Jean écrit tout à la fin du verset 21 que celui qui aime Dieu aime aussi son frère. Le fondement est là et c'est sur la base de ce fondement que l'amour doit se manifester. Voilà donc, chers frères et sœurs, les cinq choses ou manifestations que je voulais mettre ce matin devant nous pour souligner la présence de Dieu en nous. En effet, si nous avons l'Esprit de Dieu, si nous avons confessé que Jésus-Christ est Fils de Dieu, que nous connaissons son amour, l'amour de Dieu, nous avons l'assurance de son salut et que nous aimons les frères, nous pouvons être certains, sûrs que Dieu habite en nous. Malgré tout ce que nous pouvons sentir ou ressentir, il n'y a rien de prétentieux, me semble-t-il, que de reconnaître la vérité de l'Évangile telle qu'elle nous est enseignée. Certes, dire que Dieu habite en nous est quelque chose qui dépasse l'entendement humain. Néanmoins, rien n'est impossible à Dieu, à notre Dieu, qui a bien voulu faire de nous sa demeure par son Esprit Saint. Avant de monter au ciel, Jésus promet d'être avec nous tous les jours jusqu'à la fin. Et Dieu n'est pas simplement présent avec nous, en nous, lorsque nous portons bien spirituellement, lorsque notre vie est à sa gloire. Mais il est là aussi lorsque nous sommes au mauvais endroit, lorsque nous ne sommes pas là où Dieu nous attend. Oui, Dieu est aussi là lorsque nous sommes accablés par notre désobéissance, lorsque nous pensons être loin de lui. Pour la simple raison, c'est que Dieu est en nous et avec nous, et cette présence de Dieu en nous est fondée sur lui-même. Mais nous devons savoir que lorsque nos pensées, nos paroles, lorsque nos actes ne sont pas fondés et inspirés par la parole de Dieu, ne sont pas à la gloire de notre Dieu, cela l'attriste profondément. Mais il ne nous abandonnera jamais. Le Seigneur Jésus ne perd aucun de ce que le Père lui a confié. Plus encore, il est déterminé à achever l'œuvre qu'il a commencée en chacun d'entre nous. Oui, il ne va pas nous abandonner. Il nous pardonne, comme nous l'avons chanté tout à l'heure. Je suis moi-même né de Jésus, avec vous chaque jour, jusqu'à la fin. Amen.